Mais c'est enregistré, effectivement. Donc bonjour et bienvenue à ceux qui ne sont pas venus pour la table ronde ce matin, qu'on accueille maintenant, cet après-midi. Rebonjour pour ceux qui assistent à cette journée depuis ce matin. Donc on va reprendre la journée avec la deuxième table ronde consacrée aux articulations, impulsions économiques et artistiques, donc à la fois sur les appels à projets plus au niveau de la programmation. Donc cette table ronde se conduira jusqu'à 15h30 et puis à 15h30 on vous demandera de sortir de cette salle, de faire un petit break, donc café, thé, jus de fruits, des petits gâteaux, des fruits, tout ce que vous voulez. Et on démarrera au même moment, à partir de 15h30 jusqu'à 17h, les démonstrations et expérimentations virtuelles, donc dans la salle Moineau qui se trouve à gauche du bar et dans la salle Esmeralda qui se trouve à droite du bar. Voilà. Et à partir de 16h, vous pourrez revenir dans cette salle également pour voir l'expérimentation de Ramon. Donc, on voit tout le matériel derrière déjà installé. Je vous souhaite une bonne après-midi et je laisse la parole à Laurent Dauphest, donc modérateur de cette deuxième table ronde. Merci.
Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je ne vais pas faire grand-chose comme modérateur aujourd'hui, parce que cet après-midi, on va surtout exposer des projets, des expériences. Et surtout, ce qu'on va essayer de faire, c'est que chacun des intervenants va présenter son action dans le domaine qui nous concerne, et surtout vous permettre, vous, de poser des questions et d'intervenir ensuite. Donc on va avoir une présentation pendant 30 à 45 minutes, selon le temps imparti, et avoir vraiment un temps de parole et d'échange et de questionnement. Donc je vais passer donc la parole d'abord à Vincent Socotato, que je, voilà, que je l'ai bien prononcé, qui va expliquer donc quel est son rôle et ce que c'est que Relais Europe et son appel à projet.
Bonjour à tous, Vincent Socotato, je travaille à Relais Culture Europe et je suis en charge notamment du soutien aux activités transsectorielles de Relais Culture Europe. Donc je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Est-ce qu'on peut présenter le PowerPoint ? Et l'objet de mon intervention, c'est également de vous présenter en fait un appel à projet qui vient d'être publié au niveau de la Commission européenne, dont l'échéance est le 20 juin, puisque la Commission travaille à un rythme très accéléré. Et donc l'objectif, c'est de vous présenter vraiment les éléments clés de cet appel à projet pour voir en fonction de votre développement, en fonction des partenariats que vous avez au niveau européen, s'il est pertinent ou pas de présenter une candidature d'ici le 20 juin, ou peut-être d'attendre le second appel qui sera publié en 2020. Donc voilà, un maximum d'éléments pour une décision rapide. Slide suivante, s'il vous plaît. La suivante. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, Relais Culture Europe en fait est une association qui est financée par l'Union européenne, par le ministère de la Culture et le Centre national du cinéma. Et nous sommes une plateforme d'appui, de soutien à l'innovation et au développement de la coopération au niveau européen. Slide suivante. Et nous sommes également en France, en fait, le bureau Europe Créative. Et donc, c'est-à-dire que nous sommes le point de contact national et d'information, d'accompagnement, plus spécifiquement donc au niveau du programme européen Europe Créative. Slide suivante. Donc Europe Créative, je pense qu'un certain nombre d'entre vous peut-être connaissent peut-être déjà ce programme, donc je vais vous le présenter rapidement. Slide suivante. Donc c'est un programme qui a été élaboré en 2013, donc qui couvre la période 2014-2020. Et qui prend comme point de départ en fait deux éléments de rupture au niveau de nos pratiques professionnelles, à la fois la question de la mondialisation et l'impact du digital. Slide suivante. Et plus précisément par rapport à l'appel que je vous ai présenté, il y a à la base voilà, le constat que les secteurs professionnels, culturels, audiovisuels, les nouvelles technologies travaillent encore trop en silo. Et donc il y a aussi l'enjeu de développer ce type de coopération, de partenariat. Et qu'il y a aussi sur toute cette phase de création, de développement, de prototypage, aussi des difficultés d'accès de financement pour les projets innovants. Ça va être suivante. Et le programme Europe Créative en fait articule deux objectifs stratégiques qui sont en fait identifiés comme complémentaires, à la fois l'objectif de compétitivité ou comment renforcer les capacités des acteurs professionnels à opérer au niveau européen et international, et aussi un enjeu très important au niveau européen, c'est l'enjeu de promotion de la diversité culturelle et créative au niveau européen. Slide suivante. Et donc Europe Créative est articulée en trois volets. Culture pour le secteur culturel, médias, l'audiovisuel et le transsectoriel qui a pour enjeu de faire travailler ces deux secteurs en lien avec d'autres secteurs comme l'éducation, la recherche et les nouvelles technologies. Et donc un point particulier en 2019, nous sommes également en transition vers le futur programme qui est en cours de négociation et qui couvrira la période 2021-2027. Et donc cet appel à projet et est un appel un peu de préfiguration sur le futur programme. Et il est notamment en lien avec un certain nombre de stratégies politiques au niveau de la Commission européenne, donc notamment le nouvel agenda pour la culture, l'agenda numérique et un agenda spécifique qui est Digital for Culture et qui a pour enjeu d'articuler culture audiovisuelle avec le soutien du numérique. Et donc plus spécifiquement, c'est un cadre qui est identifié au niveau de la Commission, aussi sur lequel on peut aussi échanger et débattre. C'est le contexte général de convergence des médias, qu'il y a aussi, avec le soutien du numérique, des ponts qui se créent de plus en plus entre acteurs du secteur culturel et audiovisuel. Il y a donc la production également donc, de biens culturels et créatifs avec de nouvelles formes d'expression qui permettent de renforcer l'expérience culturelle des usagers et qui permettent aussi de nouveaux modes de création avec les artistes. Et donc, l'appel transsectoriel qui vient d'être publié, rapprocher la culture et le contenu audiovisuel à l'aide du numérique. Donc l'objectif, c'est vraiment de rassembler les acteurs du culturel, de l'audiovisuel et des nouvelles technologies pour les aider à mieux travailler ensemble, à innover en prenant des risques, pour développer leurs audiences et aussi avec cette mission d'anticipation prospective pour anticiper l'évolution de ces secteurs. Et donc pour cet appel à projet qui est très compétitif, seulement 6 à 10 projets seront sélectionnés au niveau européen. Deux axes possibles de travail. Un premier axe sur vraiment une démarche de comment imaginer de nouvelles formes de création donc, qui associent ces secteurs culturel, créatif, audiovisuel, technologie. Et un second axe qui a plus une dimension stratégique pour développer plus de nouvelles approches, plus en termes de diffusion, de monétisation, de production de contenu, donc aussi plus dans l'expérimentation de nouveaux modèles économiques. Et donc cet appel à projet a un objectif qui est expérimental. Et donc l'enjeu, c'est de rassembler des partenaires pour tester ensemble un prototype qui réunit des compétences d'acteurs culturels, audiovisuels et de nouvelles technologies, et également de tester son modèle économique en espérant que ce soit un modèle viable. Donc au niveau des trois secteurs, c'est vraiment les trois piliers de la candidature en fait, qui est attendue. Réunir acteurs culturels, et les deux secteurs prioritaires pour l'appel 2019, ce sont les musées, le spectacle vivant en ligne et le patrimoine culturel dans sa définition large, immatériel et matériel. Le secteur audiovisuel, donc de manière très étendue, cinéma, télévision, information de production de contenu et jeux vidéo. Et un troisième pilier qui sont les nouvelles technologies dans leurs aspects les plus innovants, réalité augmentée, réalité virtuelle, intelligence artificielle. Et donc, au niveau des critères minimums pour répondre à l'appel, il faut pouvoir réunir trois structures issues de trois pays différents participant au programme. Donc, trois structures qui peuvent être aussi bien des associations à but non lucratif, des sociétés, des universités, des centres de recherche. Donc, ça, ce sont les acteurs clés par rapport à cette éligibilité. Et donc, l'enjeu, c'est aussi de rassembler voilà, ces éléments de compétences et d'expertise pour créer ce prototype en commun. Donc, au niveau de l'aspect coopération au niveau des pays, donc, il y a tous les pays de l'Union européenne et les pays du voisinage. Et donc, la nature de projet qui est attendue, c'est un projet qui doit être à la fois collaboratif, centré sur l'usager, donc orienté vers la résolution d'un problème, d'une problématique identifiée et partagée par l'ensemble des acteurs, donc qui soit neutre technologiquement, c'est-à-dire qui ne soit pas centré sur l'outil, mais avant tout sur l'innovation de l'usage, donc centré vraiment sur l'usager, et une attention particulière qui est portée au niveau de l'implication des jeunes en fait, dans les dispositifs. Il faut vraiment que les jeunes soient au cœur du processus créatif. Et donc également un projet qui soit autant que possible viable économiquement. Il faudra que pendant la période de réalisation de l'action, il y ait un temps de diffusion et que le prototype soit testé au niveau économique. Et donc vraiment avec une très forte orientation expérimentale, et également une action orientée vers les résultats, puisque les résultats nourriront le futur programme Europe Créative sur la période 2021-2027. Donc ce qui est prévu au niveau financier, c'est un soutien minimal à 150 000 euros, représentant 60% des coûts éligibles. Donc les demandes inférieures ne sont pas acceptées. En ordre de grandeur, compte tenu du budget disponible, le soutien ne pourra pas aller au-delà de 170 000 euros. Et ensuite, le calendrier d'activité est fixe, et donc les activités doivent avoir lieu entre début 2020 et le 30 juin 2021, sur une durée totale de 18 mois. Et donc, sur les aspects plus de candidature, je ne vais pas aller plus sur l'aspect technique. Et donc après, voilà, je suis à votre disposition pour toute question et pour échanger avec vous par rapport à vos projets. Et voilà, nous organisons avec le relais différents ateliers d'ici la date butoir du 20 juin. Et donc, je suis à votre disposition pour toute question.
Je pense qu'on va prendre quand même 5 minutes ou 10 minutes là tout de suite pour poser 2-3 questions sur l'appel à projet, tant que c'est encore frais et que la présentation est encore fraîche, à moins que vous ayez tous pris des notes et qu'on puisse y revenir. Mais je pense qu'on peut faire déjà passer la parole tout de suite et après rebondir sur vos expériences. Est-ce que vous avez une ou deux questions? Moi j'en ai plein. Donc,
Bonjour. Là, juin 2020, ça fait un peu court pour nous pour imaginer. Voilà. Mais est-ce qu'on pourrait avoir une perspective un peu sur justement ce nouveau programme 2020-2027 et savoir un peu quels vont être les prochains appels ou en tout cas ce qui est le début de formulation des prochains appels?
Oui. Merci. Donc là, on est en période de transition en fait, entre les deux programmes. Donc là, d'ici la fin de l'année, il y aura notamment un nouvel appel donc sur le volet culture, donc dédié aux opérateurs culturels, sur le volet coopération. Donc là, on garde le calendrier traditionnel avec un appel qui sera publié au début de l'été et avec une date butoir en fin d'année. Les dates ne sont pas encore fixées, ce sera entre octobre et décembre. Et donc sur Europe Créative, culture, on est plus sur des enjeux stratégiques qui ont lieu très notamment à la question de la mobilité des artistes, toujours la question de l'audience qui est très importante, notamment comment développer des publics, notamment en direction du public sous-représenté, et les publics toujours identifiés sont les jeunes, les personnes en situation de handicap, les personnes insuffisamment représentées dans les activités des structures. Il y a également un objectif important en termes de renforcement de capacités, renforcement de compétences. Donc là-dessus, ça peut être par exemple des compétences en termes numériques, en termes d'innovation numérique, en termes de tests de nouveaux modèles économiques, ou par exemple des compétences en termes de médiation. Il y a également une autre priorité qui est le patrimoine culturel, puisque l'année 2018 était l'année européenne du patrimoine culturel, donc il y a l'enjeu au niveau de la commission de inciter le secteur à poursuivre en fait le développement de cette thématique sur cet appel. Et il y a aussi un objectif identifié sur tout ce qui est dialogue interculturel et implication notamment des migrants dans les projets artistiques des territoires. Donc ça, ce sont les 5 objectifs stratégiques de Europe Créative donc pour le prochain appel, qui sera en fait le dernier appel du programme. Et l'année 2020 en fait sera davantage dédiée à des appels pilotes qui nourriront également, comme cet appel transsectoriel, la future génération de programmes. Donc des appels pilotes également sur la mobilité. Il y a l'appel à projet e-Portunus qui est porté par l'Institut français, le Goethe-Institut, l'Institut Cervantes, donc qui est en fait un dispositif de soutien direct de la mobilité en direction des artistes. Donc il y a 2 appels qui seront encore publiés en fin d'année et l'année prochaine. Il y a également des appels à projets qui seront lancés aussi sur la thématique de l'intelligence artificielle l'année prochaine, donc un appel spécifique en 2020. Et il y a également des appels qui sont en cours d'élaboration, par exemple sur le secteur du théâtre et sur le secteur de la musique. Et il y aura de nouveaux appels sur l'initiative Music Moves Europe, qui est vraiment dédiée aux acteurs professionnels, avec notamment un volet plateforme numérique. Et quelques mots aussi sur le programme Média, qui aussi évolue vers aussi davantage de coopération. Et le programme Média, jusqu'à présent, soutenait plus spécifiquement un titre individuel, en fait, certains acteurs. Et le programme évolue de plus en plus sur des logiques de coopération entre acteurs européens. Donc ça, c'est l'ensemble de ces éléments qui évoluent en fait en direction du futur programme. Donc c'est l'ensemble de ces éléments, de ces objectifs, qui nourriront le futur programme Europe Créative, qui est toujours en cours de négociation et pour lequel en fait nous attendons le résultat des élections européennes et la mise en place des nouvelles commissions, puisque c'est le nouveau Parlement qui votera notamment le budget du programme. Et donc, sur l'ensemble de ces éléments, c'est aussi notre souhait d'être en contact constant avec les secteurs professionnels, culturels et créatifs pour faire remonter aussi des enjeux, des besoins, des points de vigilance sur ce futur programme. Et à cette occasion, nous organiserons les 4, 5 et 6 septembre à Arcueil nos journées Europe Créative. Et le 6 septembre, nous échangerons avec l'ensemble des participants sur la dernière version du programme Europe Créative, puisque sa finalisation va arriver très vite d'ici le mois d'octobre et novembre.
Est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux exemples de projets qui ont été retenus, qui vous semblent un peu emblématiques de ce type de démarche ?
Alors sur les projets qui associent culture, nouvelles technologies, il y a notamment un projet grande échelle de Creative Europe dont le coordinateur est Ars Electronica en Autriche et qui associe comme partenaire français l'Hexagone, c'est National Arts Science. Et donc c'est parmi les derniers projets qu'on a identifiés, vraiment le projet qui est vraiment le plus en pointe justement dans cette approche transsectorielle de comment associer acteurs culturels, acteurs du numérique et en mobilisant les nouvelles technologies pour pouvoir vraiment élargir en fait le spectre de la création à un secteur beaucoup plus large. Et c'est important aussi notamment d'identifier tous les appels, tous les projets par exemple qui sont soutenus par une initiative qui s'appelle STARTS et qui est notamment permet d'associer art et science en fait au niveau de la recherche, de la création. Et STARTS est une initiative de la DG Connect et donc on voit que de plus en plus il y a des coopérations qui se développent entre les différentes directions générales et qui associent le numérique et le secteur culturel et créatif.
On va passer la parole.
Bonjour, je m'appelle Élie Comins et je travaille dans une branche du ministère de la Culture qui s'occupe de spectacles vivants, donc musique, théâtre, danse, et d'art visuel, qui depuis peu comprend la photographie, et qui s'appelle la Direction Générale de la Création Artistique, et que vous connaissez probablement. Et dans cette direction générale, je suis en charge des dossiers numériques, dans une position un peu particulière, puisque c'est une maison qui historiquement est organisée essentiellement de deux manières qui se complètent. La première, c'est d'abord qu'elle est organisée en disciplines, donc théâtre, musique, danse, art visuel, et même en disciplines ensuite qui s'articulent sur ces grands courants principaux, la marionnette par exemple. Et puis d'autre part, c'est une maison où la plupart de mes collègues travaillent en fait en lien avec des établissements culturels, des lieux. Et ça, ça structure évidemment très fortement l'activité. Moi, je ne traite ni d'une discipline particulière, ni de lieu. Et donc, l'idée, c'est que je suis positionné dans le jargon administratif de manière transversale. Et donc, je participe ou j'impulse des projets avec mes collègues des disciplines, disons, historiques de cette institution. En pratique, ce qui se passe, c'est que, en tout cas pour le volet création numérique de cette activité, je vois beaucoup arriver vers moi des projets artistiques ou des projets culturels qui ont du mal à trouver une place ailleurs dans l'institution, en d'autres termes, qu'on n'arrive pas à ranger ni en théâtre, ni en danse, ni en musique, ni en art visuel. Parfois, ils ne sont pas très numériques, mais ils atterrissent quand même sur mon bureau, parce qu'on ne sait pas très bien où les mettre. Et donc le mot numérique, qui lui-même est assez flou en fait, hein, sur sa signification réelle, finit par s'élargir et pour désigner des objets qu'on a du mal à qualifier, mais en tout cas qui n'entrent pas bien dans les cases les plus normées, je dirais, et que certains qualifient d'hybride, qui est lui-même un mot qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui au moins a l'avantage de... disons, d'indiquer que ça recouvre plusieurs champs créatifs. En général, ces projets sont dans une situation de difficulté particulière, notamment par rapport au réseau de diffusion. Très souvent, les artistes me disent, moi j'ai cette idée, dans le réseau tel qu'il existe actuellement, en tout cas dans le secteur public, mais en fait, de fait, plus encore dans le privé, j'ai du mal à diffuser cette œuvre. Et d'ailleurs, souvent, on me dit ça tourne pas mal en Belgique, ça tourne pas mal aux Pays-Bas, ça tourne pas mal en Allemagne, etc. Mais en France, c'est plus compliqué. Donc ça, c'est un peu le quotidien de mon activité. C'est quelque chose que j'ai pu voir également à l'œuvre dans différents dispositifs d'aide, notamment le DICREAM, le dispositif d'aide à la création multimédia qui est géré par le CNC, mais où la DGCA, le ministère de la Culture, participe également. Le DICREAM a été créé justement pour suivre les formes en lien avec le numérique. Donc vous voyez qu'on évite de dire art numérique parce que c'est très ouvert, ça peut être du spectacle vivant, ça peut être de l'architecture, de la littérature, etc. Donc il n'y a pas de biais disciplinaire, mais il y a toujours évidemment une présence du numérique d'une manière ou d'une autre. Et ce qu'on voit au DICREAM, là aussi, c'est qu'en fait, les projets ont tendance quand même à se conformer aux possibilités de diffusion telles qu'elles sont perçues par les artistes, ce qui est en fait tout à fait logique, c'est-à-dire que les artistes, évidemment, logiquement se disent comment est-ce que je vais diffuser mon œuvre, et donc s'adaptent à des réseaux de diffusion existants. Mais du coup, le DICREAM, souvent, à mon sens, c'est un jugement qui n'engage à peu près que moi, mais peine à révéler des formes vraiment hybrides, pour le coup différentes, enfin qui sortent des circuits les plus habituels. Donc je vous explique tout ça parce que c'est un peu le point d'origine du dispositif Chimère dont je viens vous parler aujourd'hui, qui se pose cette question de pourquoi est-ce que finalement on a l'impression que sur ces formes plus particulières-là, y a des questions tout à fait différentes qui se posent. Comment est-ce qu'on peut dynamiser un petit peu ces pratiques? Et puis, très clairement aussi, de mon point de vue, il y a une sorte de très modeste, parce que ça reste quand même un dispositif très modeste, de très modeste effet de compensation par rapport je dirais, au circuit de production et de création dominant dans le secteur public culturel français. Le but, c'est en gros d'ouvrir une petite fenêtre pour faire des choses voilà, un peu inhabituelles en termes formels. Tout ceci étant dit, il va de soi que rien n'est jamais tout à fait nouveau, qu'il y a énormément de gens qui font des choses dans ce domaine-là aussi. Et d'ailleurs, ça s'inscrit, on a beaucoup parlé de la mode du mot immersion tout à l'heure, ça s'inscrit dans, là aussi, il y a en fait plein de petits dispositifs qui sont nés ça et là, à différentes échelles, autour de questions analogues. Hein, donc on est loin de d'être solitaire par rapport à ces questions. Alors Chimère, donc ça c'est un peu le point d'origine général. Et puis aussi pour ne rien cacher, j'ai moi-même une pratique artistique antérieure à ma venue au ministère de la Culture, où j'ai pratiqué ce type de forme et j'ai pu faire l'expérience de... Voilà, qu'est-ce qui se passe quand le public est en déambulation, quand il faut une black box avec des contraintes techniques particulières, ce genre de situation où concrètement on arrive à circuler de manière un petit peu ponctuelle dans des festivals, etc. Mais en fait, des vraies formes de diffusion plus fortes sont beaucoup plus difficiles à atteindre. Alors Chimère, qu'est-ce que c'est ? C'est essentiellement un travail de recherche. Et ça, c'est évidemment capital. L'idée, c'était de donner un espace de recherche aux artistes, là aussi dans un contexte général où on sent bien que ce n'est pas facile d'avoir ce temps-là et qu'on ne peut pas être toujours orienté vers la production. Ceci étant dit, il y a aussi un autre dispositif sur la recherche qui a été lancé à la DGCA, j'en profite pour le dire, si vous ne l'avez pas déjà vu, sur la recherche dans le champ théâtral à proprement parler. Donc c'est quand même une question qui apparaît, mais qui, à mon sens, certainement mérite d'être beaucoup plus appuyé. Donc Chimère, c'est d'abord un dispositif de recherche, et c'est ensuite une sorte de méthode, mais dans le sens le plus souple du terme, qui consiste à se dire que finalement, il y a une sorte de poids gravitationnel des structures et des disciplines établies, et que pour le contrecarrer, en quelque sorte, il faut se mettre à plusieurs, il faut s'associer, il faut rencontrer d'autres gens, il faut croiser les disciplines, pas seulement croiser les disciplines artistiques, mais aussi associer des acteurs culturels plus largement, et pourquoi pas des acteurs non culturels, ça pourrait, mais en tout cas élargir le spectre des gens à qui on parle, pour aussi déplacer un petit peu la conversation. Alors Chimère, concrètement, c'est d'abord en fait une série de résidences, très simplement. Il y a eu deux éditions du dispositif, donc je vous parle de quelque chose de très embryonnaire et qui change évidemment à chaque fois qu'il trouve ses réglages. Donc c'est simplement une photographie actuelle, mais qui va certainement changer. Dans l'édition qui vient de commencer là, puisqu'on revient d'une semaine de résidence à Nantes au lieu unique, donc on a fait un appel à participation, qui n'était donc pas un appel à projet. Donc l'idée, c'était plutôt de sélectionner des profils en espérant qu'ils soient complémentaires et que les artistes présents voilà, trouvent à s'entendre sur le plan et artistique et aussi personnel, évidemment, parce que ça joue beaucoup, mais ça c'est un petit peu imprévisible. Ils se sont retrouvés, nous nous sommes retrouvés, alors après cet appel à participation, alors d'ailleurs, on a reçu 300 réponses éligibles sur cet appel à projet, qui est encore une fois un petit appel, pas à projet, à participation. Ce qui, à mon sens, disait quand même quelque chose, le fait que ça intéresse quand même des gens. Enfin, on n'a pas reçu 15 réponses. On en a sélectionné 12. Et nous nous sommes retrouvés à Nantes pour une semaine de mise en commun, de partage, de travail, de réflexion et de création autour d'objets concrets. Donc là, l'idée, c'était, les contraintes qu'on donnait aux artistes, c'était de travailler sur des formats hybrides. Donc en gros, pas un objet, je dirais, classiquement scénique au sens où on l'entend habituel. Toutes ces catégories que je vais utiliser sont critiquables et un peu floues, donc j'en suis bien conscient, mais ça donne un peu le sens. Pas un objet plastique purement circonscrit, mais des objets hybrides, des objets qui sont à cheval sur plusieurs pratiques, des objets qui peuvent aller dans l'espace public, ou alors qui peuvent occuper un théâtre ou un lieu de diffusion et de création de manière différente. Et si possible, il faut qu'il y ait une petite sortie ou entrée numérique à un moment ou à un autre, puisque j'ai ça officiellement sur ma casquette, mais ce n'est pas vraiment en fait, tout à fait le centre du dispositif. En fait. Et ce qui s'est passé cette semaine, c'est que les artistes ont été amenés à travailler sur plusieurs... projets différents, les uns avec les autres, avec une règle du jeu extrêmement simple qui est Pendant cette semaine, vous travaillez sur des projets artistiques et vous pouvez, à la fin de cette semaine, nous proposer autant de projets que vous le souhaitez, dans autant de configurations d'équipes que vous le souhaitez. Autrement dit, vous pouvez rendre un projet tout seul, un projet avec deux autres personnes, un projet avec toutes les 12 personnes réunies, ce que vous voulez, autant que vous voulez. Et ensuite, les personnes qui font partie de l'organisation de ce dispositif Chimère vont choisir certains projets, peut-être tous si possible, ce serait formidable, mais on a choisi aussi de concentrer sur certains pour leur donner plus de force par la suite, dans ce qui va être essentiellement une suite de résidences de recherche, dans l'espoir qu'elles posent des questions artistiques, esthétiques, pourquoi pas techniques particulières, et d'arriver à des projets évidemment qui vont concrètement exister s'ils vont jusqu'au bout et s'ils arrivent à surmonter les défis de recherche qu'ils ont posés. Pour information, il y a eu une édition précédente qui était une édition pilote en 2018. Et donc là, on voit notamment deux projets qui se sont poursuivis sur cette base et qui posent certaines, certaines questions qui me semblent intéressantes de formats très, très inhabituels comme ça, qui peuvent être par exemple un peu à l'intersection entre le jeu vidéo et le théâtre, par exemple, ou la danse et la réalité virtuelle en temps réel à 200. Une des autres contraintes qu'on a posées aux artistes, c'était aussi qu'on exclut les œuvres pour un seul spectateur. Voilà, donc ce n'est pas la réalité virtuelle où on est tout seul dans le casque face à l'œuvre. Il y a vraiment la notion de partage et de mise en commun propre à ce qu'est un lieu culturel qui doit être présente dans ces projets. Donc on n'a pas, je crois, vraiment imposé de chiffres précis, mais il est clair que il y a une notion quand même de jauge minimale, disons, qui n'a pas lieu de vraiment définir, mais on ne cherche pas des œuvres pour un ou deux ou trois ou quatre ou cinq spectateurs. En centaines que ça doit se compter, ce qui pose évidemment une contrainte tout à fait particulière. Voilà de manière très générale. J'espère que c'est pas trop abstrait du coup ce que je décris, parce que comme c'est des projets très inhabituels, parfois on me dit mais ça ressemble à quoi concrètement. Alors il y en a un qu'on peut peut-être décrire un tout petit peu. Alors les artistes me disent toujours attention, il faut pas que tu en dises trop, parce qu'évidemment ils veulent pas, ils veulent que l'idée reste quand même un peu à eux le plus longtemps possible. Mais par exemple Laurent Bazin, qui était donc à cette table ce matin, faisait partie de Chimère 2018 et développe un projet où, sans en trop en dévoiler, il est question essentiellement de pouvoir jouer des avatars qui sont des acteurs, des performeurs, qui sont eux dans l'espace public autour du théâtre. Et dans le théâtre, on les joue, c'est-à-dire qu'on leur fait faire des choses à l'extérieur. Donc vous pouvez les envoyer... Alors je crois que la contrainte principale, c'est qu'ils ne vous transportent pas d'un endroit à un autre, ils ne vous apportent pas votre sandwich, donc ce n'est pas Uber, ce n'est pas Deliveroo, donc ils font des tâches non utilitaires pour vous. Donc, si vous avez besoin de parler à quelqu'un mais que vous ne pouvez pas le faire, si vous voulez crier devant le conseil municipal ou autre, ça peut se faire comme ça, ou simplement regarder la cathédrale, enfin, voilà, tout est possible. Mais en tout cas, donc le théâtre, c'est le lieu d'où l'on regarde ça, et évidemment, on peut imaginer énormément de jeux dramaturgiques sur cette base. Il y a un autre projet de Vincent Dupont, qui est chorégraphe, Elisabeth Caravella, vidéaste, et Charles Ayatz, qui est lui plus du côté auteur de jeux vidéo et de films VR. Eux, ils se sont rencontrés pendant la résidence, ils ne se connaissaient pas du tout avant, et ils développent un projet où vous avez des casques là de réalité virtuelle, mais du type, pas les câblés, vous voyez, ceux que vous pouvez enlever facilement. Et donc, il y a un jeu entre une scénographie virtuelle et de la scénographie réelle qui... donne des contraintes aux danseurs au plateau. Et c'est pour à peu près 200 spectateurs en même temps. Donc là aussi, il y a cette question de la jauge qui, par exemple, en ce moment, pose une question vraiment de pure recherche technique sur comment est-ce qu'on fait pour envoyer de l'information temps réel à 200 casques branchés sur un réseau Wi-Fi, ce qui est une question en fait pas facile. Mais ça fait aussi partie des questions qu'on peut poser dans ce cadre-là et qu'on essaye de résoudre ensemble. Et si on ne peut pas les résoudre, eh ben on publiera le rapport de notre échec, et en espérant que ce sera aussi l'occasion pour d'autres d'avancer plus ensuite. Ça, évidemment, c'est un enjeu très important pour tous les producteurs, disons, d'expériences immersives, pour reprendre le terme plus largement. Donc voilà, en deux mots, ce que c'est que Chimère. Évidemment, j'ai un point de vue très biaisé sur la question, mais je pense que c'est un espace intéressant pour les artistes de relative liberté face à des contraintes de production plus précises, je l'espère. Et je dirais que pour l'instant, le bilan des deux premières éditions est quand même intéressant en termes de déplacements qui se sont opérés chez certains artistes qui, au contact d'autres vocabulaires, d'autres manières de penser, ont pu faire des choses très, très intéressantes. Il faut aussi peut-être indiquer, si j'ai encore une minute, qu'il est très important pour nous que d'autres personnes participent au processus dès la phase toute première en amont. Et là, en l'occurrence, par exemple, nous, on demande aux deux lieux qui opèrent le dispositif sur ces deux premières années, qui sont le lieu unique et le théâtre Nouvelle Génération, donc lieu unique à Nantes, théâtre Nouvelle Génération à Lyon, on demande à leur directeur d'être présent pendant la résidence, justement pour pouvoir lever les verrous qui se présentent éventuellement, c'est-à-dire le moment où l'artiste dit « Ah, mais je ne vais pas créer un truc comme ça pour 500 spectateurs en déambulation dans l'espace urbain parce que personne ne va me le diffuser ». Et normalement, c'est là où le directeur doit être là pour dire « Mais si ça m'intéresse, vas-y, on va chercher là-dessus ». Donc c'est ça aussi l'idée. Et puis il y a d'autres gens avec des profils plus techniques qui sont là pour résoudre des questions techniques. Tout ça, voilà. Donc vous avez l'idée, hein, c'est vraiment un processus de recherche où on essaye vraiment d'ouvrir et d'associer très largement dès la toute première phase de création. De manière plus générale, et après j'en termine, ce qui me paraît important dans ce dispositif, c'est évidemment l'aspect recherche. C'est l'aspect aussi très appliqué, c'est-à-dire c'est pas de la théorie, on est vraiment en train de travailler sur des projets précis. Et ça propose vraiment tout à fait autre chose qu'une logique de guichet. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pas une aide au projet, il n'y a pas d'argent qui est versé au projet. C'est vraiment les opérateurs du projet qui, eux, accueillent en résidence, soutiennent, aident éventuellement pour toutes les parties logistiques et techniques. Donc c'est vraiment d'abord une succession de résidence, et c'est un processus d'accompagnement, et je dirais que c'est l'intensité de l'accompagnement et du dialogue en continu avec les artistes qui fait son intérêt. Donc c'est pas du tout, il y a une subvention qui tombe, on va faire son projet, on présente un rapport, c'est pas du tout cette logique là c'est aussi quelque chose de très particulier, d'assez ponctuel et de très risqué, dans la mesure où vous ne savez jamais vraiment ce qui peut en sortir, et donc il faut accepter que ça peut ne pas marcher, par exemple. Et donc, pour une administration publique, dans le contexte actuel, il faut pouvoir accepter que peut-être... Non, moi, on m'a posé la question, hein, les gens qui ont les cordons de la bourse m'ont dit « qu'est-ce qu'on achète ?» Et on ne sait vraiment pas du tout ce qu'on achète. Quoi. Donc c'est ça. Mais par contre, je crois que ce qu'on ouvre, c'est un espace de création, je l'espère, un petit peu différent.
J'ai une question. Est-ce qu'il y a un accompagnement à la diffusion ensuite de ce projet-là, en dehors des deux lieux qui accompagnent, parce que c'est ça aussi qui intéresse un artiste, c'est qu'on lui offre la possibilité d'avoir une résidence, d'avoir une confrontation avec un théâtre, c'est une chose, mais s'il y a un accompagnement dans la diffusion de cette recherche-là, en quoi elle prend forme ?
Alors, dès le départ, c'était vraiment notre idée, et en fait, l'idée de Chimère, c'était aussi de se dire... On va un peu jouer le rôle d'aiguillon, de creuser un petit sillon en espérant que finalement ça se développe ensuite et que d'autres s'y mettent sans nous. Et puis, très simplement, c'était donner un petit signal aussi depuis le ministère de la Culture de dire on s'intéresse à ces formes-là. Donc c'était vraiment notre idée dès le départ. Je pense qu'en pratique, ça fait partie de l'expérience et je n'ai pas toutes les réponses parce que je sens que ce n'est pas si facile que ça. C'est-à-dire que déjà, nous, au niveau ministère, ce n'est pas du tout notre rôle que d'aller évidemment diffuser un spectacle, absolument pas. On n'est pas du tout là comme producteur, hein, donc ça, on ne rentre pas du tout là-dedans, et il ne faut pas le faire, clairement. Mais même pour les opérateurs du projet, ce n'est pas non plus si simple. Comme c'est en cours, je ne peux pas vous donner la réponse finale. C'est évident qu'on prend beaucoup de contacts avec tous nos collègues, avec les programmateurs, les directeurs de lieux. Là, on va au Festival d'Avignon, par exemple, cet été, où on présente. Il y a deux résidences et on a un temps de présentation. Et c'est fait aussi pour diffuser. Donc, on accompagne à la diffusion de ce point de vue-là. Mais je dirais qu'on est en train un peu de se réorienter, en train de se dire, en fait, c'est peut-être plus utile que nous, on aide vraiment à la recherche et au prototype. On les aide à fabriquer des prototypes. Et une fois que le prototype est fait, c'est la preuve de concept, pour prendre le langage de l'innovation, ils pourront voler de leurs propres ailes. Et c'est peut-être finalement contre-productif que d'entrer vraiment dans la diffusion au sens chargé de diffusion du terme. Voilà. Donc la question reste franchement assez ouverte à ce stade.
Donc, oui. Pour rebondir tout de suite sur le sujet. Comme ça, Magali a le temps de se préparer.
Quels sont vos critères de choix des candidats reçus ? Est-ce qu'il y a par exemple le fait de justement vouloir faire Creuset et qu'il y ait une rencontre possible, ou c'est Vous avez des panels?
Alors évidemment, c'est comme en fait ce qu'on cherche à créer, c'est des conditions de rencontre possibles dans un monde où c'est pas forcément la pratique. Enfin, c'est-à-dire que, en gros, pour le dire clairement, on fait aussi venir des gens du monde du numérique, des gamers, par exemple des auteurs de jeux vidéo, de la VR, du code, et eux, en gros, vous les mettez là-dedans et tout de suite, ils vont rencontrer des gens, ils se mettent tout de suite dans ce style-là. Les auteurs qui se représentent comme auteurs, parfois ont plus de mal, enfin, c'est-à-dire, c'est mon idée, comment je vais la partager, il y a un rapport différent. Donc c'est, en gros, très franchement, je pense que c'est très difficile. Évidemment, on se fixe des critères. Alors, on a fait quelque chose d'un peu ambivalent, c'est qu'on a demandé des intentions de projet aux candidats, tout en les prévenant qu'on n'allait sans doute pas faire ce projet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu bizarre hein, comme démarche. Mais d'ailleurs, on s'est retrouvé plutôt à prendre des candidatures avec vraiment des dossiers où ils nous expliquaient, voilà, j'en suis là dans ma pratique artistique, il y a tel et tel sujet qui m'intéresse, mais sans vraiment de projet précis, mais plus des intentions de travail générales. Donc c'était ça le principal critère de jugement. On a essayé d'être très ouvert sur le plan des disciplines d'origine, et puis on a essayé d'imaginer, de rêver des rencontres possibles, en sachant que là je crois que ça a bien marché dans cette résidence. David, tu étais là, donc tu peux dire, mais ça aurait pu ne pas se passer. Voilà. Après on a évidemment réuni un jury avec certains des participants, donc Patrick Guiguer, Joris Mathieu, directeur du LU et du TNG, et puis il y avait Chloé Dabert de la Comédie de Reims qui était là, et Sylvie Violent qui dirige le Festival des Arts de Bordeaux pour donner d'autres regards. Mais c'est un processus, je dirais, assez empirique hein, de ce point de vue-là.
Est-ce que vous avez une autre question tout de suite, ou sinon on passe la parole? On passe la parole.
Bonjour, moi je suis Magali Dupin, donc directrice adjointe de la Comédie de Reims, donc arrivée en janvier avec Chloé Dabert. Et alors moi, ce n'est pas un appel à projet, pas un appel à participation, c'est un exercice très difficile puisque je vais vous parler du printemps numérique, qui est un temps fort autour du numérique qui aura lieu en juin prochain à la Comédie. Donc en sachant que je vais vous parler de quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, donc qui est encore à l'endroit de pensée, de construction, et pas encore à l'endroit d'avoir été expérimenté et réalisé. Donc certainement que dans un an, j'en parlerai différemment. En tout cas, l'idée pour le projet était de créer un rendez-vous qui soit un endroit de croisement et qui interroge aussi la place du numérique dans le spectacle vivant. Et pourquoi la programmation du printemps numérique dans un centre dramatique? En tout cas, l'endroit où le centre dramatique s'intéresse au numérique, c'est bien son endroit de centre dramatique, donc un endroit aussi de création. Et c'était l'idée de se dire, nous, l'intérêt principalement, c'est pour des formes théâtrales qui sont hybridées par le numérique ou qui utilisent le numérique dans leur processus de création. Et donc, comment le numérique peut être dans le processus? Et j'ai envie de dire, sans forcément que dans le rendu il y ait du numérique, c'est-à-dire pour pousser la logique jusqu'au bout, on pourrait avoir une création qui a utilisé le numérique, qui s'en est servi dans l'objet, et peut-être qu'au moment de la représentation, il n'y a plus de numérique. Mais cette forme-là, pour nous, serait vraiment intéressante dans le printemps numérique, puisque c'est l'endroit d'intérêt que nous avons identifié. Et puis, sur la question qui était la question d'un petit peu du débat de cet après-midi, de se dire quel est l'endroit du centre dramatique pour accompagner. Nous, on s'est dit qu'on allait accompagner, par exemple, des artistes numériques qui vont pouvoir proposer une forme dans le printemps numérique de la même manière qu'on accompagne un artiste, on va dire, non numérique. C'est-à-dire, ça peut être par des temps de résidence, ça peut être aussi par le partage de ce qui peut être plus le savoir-faire d'un centre dramatique à l'endroit d'une dramaturgie, de la direction d'acteurs, qui sont peut-être des endroits moins appropriés. En tout cas, l'endroit où on accompagne pour la Comédie, c'est cet endroit-là de création. Et puis, le printemps numérique, pour nous, est aussi un endroit très intéressant, un endroit de transversalité, puisque le fait, et ça rejoint un petit peu la question de l'hybridation, c'est-à-dire que l'avantage du numérique, c'est qu'on peut y mettre aussi beaucoup de choses et que ça permet aussi d'ouvrir des portes en nommant ça, de les ouvrir très grands. Et donc, du coup, de laisser aussi une très grande liberté. Et donc, pour nous, il y a une liberté et une multiplicité de contenus, puisque c'est l'idée que ça peut être une forme qui ait lieu au plateau, grand, petit, qui peut avoir lieu dans un autre espace à l'intérieur, qui peut avoir lieu à l'extérieur de la Comédie, qui peut aussi avoir lieu chez des partenaires, qui peut aussi avoir lieu dans le quartier de la Comédie ou qui peut avoir lieu dans un autre quartier. En tout cas, c'est pour nous l'endroit de la multiplicité. C'est aussi, et par conséquent, et en ça aussi, ça nous intéresse beaucoup, une multiplicité de collaboration, puisque la Comédie, en tant que centre dramatique, a un endroit d'action, mais le Printemps numérique est construit en collaboration avec Ecoélectric, qui est une association basée à Paris et à Tunis, qui est plus sur le numérique, avec Syntex, qui est le centre de numérique duquel on est voisin. Donc il y a vraiment cette idée-là aussi que ça peut être un endroit et un temps de collaboration. Et puis aussi, bien sûr, puisque ce temps-là, il est pensé pour les artistes, mais aussi, bien sûr, pour le public, ce dont on a envie, c'est aussi d'aller à la rencontre d'une multiplicité de publics. Et par la multiplicité des formes proposées, la multiplicité des endroits, et en tout cas des questions qui ont pu être évoquées ce matin, aussi sur se dire la question des générations, et puis ce matin aussi a été évoqué de se dire le numérique c'est aussi peut-être d'abord, en tout cas le numérique dans la création, juste la question de savoir si à un moment on a eu cette rencontre-là, dans le cas de la création. Donc nous ce qu'on se dit c'est que le printemps numérique ça peut être aussi cet endroit-là de rencontre, et de manière... comment dire, la plus large possible, pour aussi qu'il n'y ait pas d'écart ou le moins possible dans les usages. Et puis c'est une manière de rebondir sur la question des cadres. C'est vrai que la question du le fait que ce soit un temps fort, de la même manière ça nous permet de nous sortir de cadres plus plus habituels, en tout cas des cadres de la saison, c'est-à-dire en termes de format. Dans un temps fort c'est plus facile de programmer une forme d'une demi-heure, une autre plus grande. Ça permet aussi de se reposer la question de les questions économiques, par exemple. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est pas gratuit? Est-ce que c'est un parcours? Est-ce que ça inclut des rencontres? Et ça permet aussi de se dire ce n'est pas que de la création, il y a aussi de l'action culturelle, de la médiation, peut y avoir de la recherche. Voilà. Donc en tout cas, c'est vrai que puisque c'était aussi l'endroit où de cet après-midi, dans la programmation, le fait que ce soit un temps fort nous donne plus de liberté, parce qu'effectivement, ce sont souvent, pour pouvoir accueillir des formes qui ne seraient peut-être pas dans le circuit plus traditionnel de diffusion. Voilà, très brièvement, et de manière assez... assez programmatique, la manière dont, dont la Comédie de Reims a pu, en tout cas, essayer dans son projet avec le printemps numérique de penser cette question du numérique dans le théâtre, et en sachant qu'il y a également tout un volet d'expérimentation de l'endroit justement du numérique dans l'artistique. Et donc quand je dis numérique, c'est vraiment les outils dans le processus.
Est-ce que vous pouvez nous parler d'un ou deux exemples de projets que vous allez présenter là au mois de juin?
Absolument pas. La présentation de saison est le 18 juin et je vous y convie, mais je ne vais pas la déflorer ici.
Mince. Est-ce que vous avez des questions?
Bonjour Magali, ça a l'air vraiment très intéressant ce temps fort, et du coup j'ai pas très très bien compris si il s'agissait uniquement de formes théâtrales avec le numérique, ou s'il y allait avoir aussi par exemple des invitations d'artistes numériques pour des expositions, des installations ou d'autres médiums en fait qui seraient proposés à ce moment-là au public.
Alors, c'est tout l'intérêt de faire ce printemps numérique aussi en collaboration, puisqu'il y aura des formes théâtrales, donc on va dire en tout cas classiques dans le fait qu'elles soient en salle, dans un rapport scène-salle. Il y aura aussi, et donc ça en collaboration avec Syntex, le fait de pouvoir aussi aller voir les expositions de la nuit numérique. Il y aura en collaboration avec l'association Ecoélectric justement une performance, par exemple, qui aura lieu, vous me faites dire des trucs hein, quand même, hein, mine de rien, qui aura lieu dans l'Arboretum, donc vraiment aussi de l'ordre de la performance. Il y aura aussi une installation et il y aura également tout un projet, et ça, ça nous semble aussi important, qui sera mené entre février-mars et le printemps numérique sur La Boussole, qui est un lieu partagé entre Césarée Nova Villa et la Comédie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas La Boussole, c'est dans le quartier Croix-Rouge, qui est un quartier hors du centre de Reims, on va dire politique de la ville, et donc qui est un endroit qui est partagé par plusieurs structures. Et l'idée, c'est que le samedi de ce printemps numérique ait lieu aussi à La Boussole, avec vraiment un temps en amont de résidence d'artistes, de croisement, et aussi de médiation, de participation des habitants, et l'idée aussi que le printemps numérique soit un jour juste à cet endroit-là. Donc c'est en ça où ce qui nous semble intéressant, c'est de croiser aussi les différents axes d'appropriation du numérique dans un temps fort, que ce soit celui de la création, de l'expérimentation, de la médiation, de l'installation. Donc il y aura, pour répondre à la question, un petit peu de tout ça, mais pas que porté par la Comédie, au contraire, en essayant de le partager, parce que justement, on a conscience que ce printemps numérique n'est pas du tout le premier événement qui s'intéresse à la création au théâtre au numérique, donc, que ce soit en France, et de la même manière, dans une ville, plein d'acteurs s'interrogent aussi. Mais ce qu'on trouvait intéressant, c'est peut-être d'avoir un temps fort, et aussi qui puisse être tout bêtement au printemps, à l'extérieur, convivial et le plus généreux possible aussi avec le public, puisque l'envie, c'est qu'il soit un endroit d'expérimentation pour les artistes et aussi un endroit de rencontre pour le public le plus diversifié possible.
Bonjour. Donc ma question, c'était, donc je vois que vous avez déjà votre programmation, donc c'est super, c'est un super projet. Ma question, c'est comment vous avez fait pour trouver les artistes, en fait? Vous avez vu les spectacles, vous avez reçu des projets, vous avez trouvé les projets. Comment vous faites pour faire la programmation? Enfin, désolée.
Ça... Ah ben non, tout ça à la fois. Donc, c'est beaucoup. Alors, en tout cas, il se trouve que ça va être des créations. En tout cas, les spectacles qui sont proposés en salle sont des créations. Donc, c'est forcément, parce que c'est aussi l'endroit d'un centre dramatique. Donc, c'est des spectacles, bien sûr, que nous n'avons pas vus, mais des spectacles qu'on va, pour certains, accompagner en résidence. Et en tout cas, des spectacles dont on a rencontré les artistes, dont on connaît le travail, pour la plupart. Le fait, par exemple, que Chloé Dabert, qui est directrice du centre dramatique, soit dans le dispositif... en tout cas dans les échanges de Chimère, c'est aussi des endroits très intéressants pour les professionnels, puisqu'on rencontre des artistes peut-être qui ne sont pas retenus, mais dont on peut se dire, ah ben, nous en tout cas on a envie de se rencontrer. Et puis toujours pareil dans cette idée de partenariat aussi, l'association Écoélectrique a pu apporter des performances. Donc voilà, en tout cas nous on est, c'est vrai, autant que possible un endroit de création, donc c'est pas forcément des spectacles qu'on a vus, mais c'est souvent des artistes qu'on a rencontrés, dont on a vu de précédentes création et qu'on a envie d'accompagner.
Dans vos trois interventions, il y a un mot qui revient à chaque fois, c'est expérimentation, mais avec des degrés divers, avec des degrés d'implication ou de subventions différentes. Vous savez, l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on peut se planter. Comment vous le gérez, ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous acceptez, le fait que ça puisse ne pas marcher? À tous les trois.
Alors, en tout cas, je le poserai pas dans... C'est intéressant parce que je trouve que, si je peux me permettre, la question, c'est comme si on était sur un dispositif technique qui fonctionne ou qui fonctionne pas. Et en tout cas, à l'endroit de la plantation, on n'est pas à cet endroit de comment dire, ça fait ce que ça devait faire ou pas. On est à un autre endroit et c'est, j'ai envie de dire... Le risque qui est pris, enfin le risque en tout cas, le pari qui est fait, quelle que soit la création, qui est du numérique ou pas dedans. Donc oui, bien sûr. Et puis c'est très subjectif. Peut-être qu'il y a un endroit qui, moi, va me sembler absolument... enfin voilà, je ne vais pas avoir vécu grand-chose. Et puis peut-être que vous, ça va vous avoir fait quelque chose d'incroyable. Donc voilà, ça ne répond pas à la question. Mais en tout cas, c'est pas de cette manière-là qu'on se pose la question.
Si, justement, vous y répondez parfaitement.
Alors, pour ma part, j'ai l'impression que le point qui me semble important et intéressant sous ce chapeau d'expérimentation, c'est celui de fabriquer des objets, et dans quelque chose de vraiment concret. Parce que du point de vue d'une administration centrale, c'est comme ça que ça s'appelle, dans un ministère, il y a une autre polarité qui est celle, disons, du grand document stratégique un peu hors sol. Et sur ces pratiques-là, très particulières, qui ne sont pas bien insérées dans les circuits, il me semble important d'avoir des lieux où on peut faire des choses, fabriquer des choses, être ensemble, et ne pas toujours se fier à des formes de langage qui peuvent être très abstraites. Pour moi, c'est un peu... C'est comme ça que je prends le mot expérimentation. Après, il ne faut pas se leurrer. En termes d'éléments de langage, parfois, quand on dit expérimentation, c'est effectivement une manière de dire on peut échouer. Voilà. Et ça, évidemment, il n'est pas question de prendre ça à la légère. C'est de l'argent public. Et donc, voilà, il y a quand même une obligation, à mes yeux, pas de résultat, mais en tout cas de rigueur sur la méthode. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment question d'échec ou de réussite. Je rejoins ce qui a été dit. Mais par contre, on essaye ensuite de partager les résultats de ce qui s'est passé avec d'autres pour qu'ils puissent ensuite prendre le relais et avancer. Et c'est, par exemple, sur les sujets très techniques qui peuvent se poser dans les créations en cours, c'est très nettement le cas. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on puisse dire ben, on n'est pas capable de transmettre en Wi-Fi en direct à 200 casques VR. Pour le moment, on ne sait pas comment faire, mais on est allé voir telle et telle personne, il s'est passé telle chose. C'est pas un échec, c'est de la recherche.
Donc après, au 7, au relais, on est un petit peu en interface, puisqu'on a d'un côté la commission avec les institutions, avec les experts qui évaluent les projets. Parfois, c'est le constat qu'on a, c'est que les experts n'ont pas forcément toutes les compétences, notamment numériques, pour autant que possible bien évaluer les projets. Donc ça, c'est une difficulté auquel on fait face avec les porteurs de projets. Donc d'un côté, voilà, il y a la commission, les experts qui ont besoin d'être rassurés un maximum par rapport aussi à cette démarche d'expérimentation. Donc on est plutôt dans une logique où il faut apporter un maximum de garanties. Si on présente un prototype, il faut essayer de présenter un maximum peut-être d'éléments pour présenter des pré-prototypes qui permettent vraiment de bien appuyer la démarche, le niveau d'expertise, les compétences. Donc on essaie de sécuriser un maximum à ce niveau-là. Mais d'un autre côté, quand on échange avec les artistes, les usagers, par exemple sur les projets STARTS, il y avait, je me souviens d'un intervenant, un artiste, un chercheur, sur des collaborations artistes-chercheurs, le premier conseil qu'il disait aux porteurs de projets, c'était surtout, quand vous démarrez votre projet, oubliez votre dossier, oubliez votre candidature. Et c'est presque incité à réouvrir des possibles, réouvrir de nouveaux horizons, et peut-être, dès le départ, appuyer cette démarche d'expérimentation pour laisser s'exprimer toute la liberté créatrice entre l'équipe des projets. Donc voilà, il y a un petit peu cette double articulation, je pense, qu'il faut prendre en compte.
En plus, un de vos critères, c'est d'avoir un modèle économique viable. Donc c'est là où c'est difficile de pouvoir envisager, en tant qu'artiste ou créateur numérique, déjà un business plan par rapport à une expérimentation ou une recherche en cours.
C'est l'un des aspects qu'il faut, et autant que possible, pouvoir travailler. Et c'est important de pouvoir assembler une diversité aussi d'acteurs, aussi bien des acteurs publics que privés, pour pouvoir autant que possible répondre à cet enjeu. Et c'est aussi cet aspect innovant de ce type d'appel à projet, de pouvoir associer cette diversité d'acteurs, oui.
Elle est simplement la traduction d'un manque de stratégie européenne sur des enjeux fondamentaux. Alors on est capable de perdre 1 milliard, voire 2 milliards pour rater un EPR, mais on n'est pas capable d'investir publiquement sur des enjeux qui sont stratégiques. Nous avons d'autres concurrents sur des enjeux de cette manière qui sur la recherche, sur des laboratoires, sont prêts justement à mener des véritables expérimentations. Une expérimentation en science, elle est claire. On met à l'épreuve une idée et on voit si, effectivement, cette idée remplit un objectif. Sans business plan, et parfois, de toutes ces idées qui émergent, peut arriver une modélisation intéressante qui a des applications dans d'autres domaines. Mais aujourd'hui, on est quand même en Europe actuellement, et sur la question de l'intelligence artificielle et sur toutes ces questions-là, dans une confusion extrêmement importante entre, un, les modélisations qu'on veut mettre en œuvre et qu'on demande à des artistes, où on voudrait que des artistes aient un champ de compétences qui exclut totalement la réalité de leur pratique. Donc, la plupart du temps, eh bien, effectivement, pour les diffuseurs, y compris pour un centre dramatique, parce qu'on oublie de le préciser, mais un centre dramatique a une injonction du ministère de la Culture qui fait qu'il ne peut pas dépenser plus que 10% de sa marge artistique sur des formes non théâtrales. Non théâtrales, c'est-à-dire textuelles avec acteurs. Donc ça supprime, c'est-à-dire par exemple une œuvre numérique, ça ne rentre pas forcément dans ces 10%. Donc ça réduit d'autant nos capacités, justement, d'expérimentation. Donc on trouve des solutions, comme vous êtes en train d'en trouver, en mettant en participation des acteurs. Mais moi, je trouve qu'actuellement, ce que ça traduit, et les termes employés, traduit pour moi le manque de stratégie au niveau européen. Et je reparle de ce que je disais ce matin, où vous allez à l'Académie centrale de Pékin, où vous avez au sein d'un établissement d'enseignement supérieur dédié au théâtre, des laboratoires, des chercheurs qui sont invités, des jeunes qui travaillent, sans question de business plan. C'est la même chose qui avait lieu à CalArts, et à l'université de CalArts aux États-Unis, c'est la même chose qui a lieu au CIAC, et c'est ce que nous n'avons pas actuellement, malheureusement, en Europe.
Après, oui, sur la question de l'évolution, on sait que le programme actuellement est en mutation, donc on revient de loin, effectivement. Les DG commencent à travailler davantage ensemble en synergie, donc cet appel à projet aussi préfigure la suite, en fait, du futur programme. Donc il y a, voilà, cette démarche de synergie qui est de plus en plus, enfin, au niveau européen, on essaie d'y travailler davantage. Puis aussi le constat qu'il y a aussi, par exemple, beaucoup de prototypes, d'outils, de projets qui sont développés, par exemple, dans des laboratoires de recherche, dans des universités, mais il n'y a pas de continuité et il y a le besoin, voilà, de créer davantage de ponts, de liens, pour que ces dispositifs, ces outils, puissent être diffusés de manière beaucoup plus large. Et il y a aussi cet enjeu de renforcer la collaboration entre les chercheurs et les artistes, parce que les artistes, ils ont aussi cette capacité à associer, à mobiliser, en fait, des outils, parfois de manière détournée. Il y a tout ce côté expérimental, et c'est aussi comment renforcer cette collaboration pour renforcer la créativité des chercheurs, et en même temps nourrir leur travail de recherche et mettre en place toutes ces hybridations, toutes ces synergies. Donc effectivement, on revient de loin, mais on essaie d'avancer.
Qu'on revient de loin. Alors, je suis un vieillard maintenant dans ces expérimentations, et moi j'ai l'impression qu'on commence à régresser. C'est-à-dire que je me rappelle, et avec Ellie, nous avions commis certaines choses, je me rappelle de l'énergie qu'il y avait à une époque dans les années 2000, et y compris de l'énergie qui permettait des rayonnements et des croisements avec des universités comme l'Université de Technologie Belfort-Montbéliard, la capacité qu'on avait au niveau européen même à interroger des partenaires extra-européens. Je me rappelle des expérimentations qui avaient lieu auprès des artistes et comment finalement il y avait encore des cadres de diffusion et comment là, en 2019, on a régressé à un niveau qui est surprenant pour moi, véritablement. Et je vois aussi comment, effectivement, aujourd'hui, l'injonction de business plan, de projets, d'appels à candidature, etc., font que énormément d'artistes, de toute façon, se détournent de ces questions-là. Et je donne un exemple. Je suis directeur d'un centre dramatique. Je veux faire quelque chose sur la robotique. C'est un projet important. Ben, mes partenaires, c'est des partenaires en dehors de tous les systèmes européens. C'est des Singapour, Chine, Japon. Voilà. Et je suis obligé de sortir de toutes les logiques du système qui pourraient exister pour pouvoir arriver à faire quelque chose avec des partenaires. C'est quand même étrange, y compris le fait qu'on parle de la possibilité que des partenaires privés nous accompagnent. Certes, mais on n'a même pas réussi à déposer, à avoir au sein européen, sur toutes ces expérimentations qui furent menées à un moment, la possibilité de déposer des brevets, voilà. Donc c'est fou, quoi. n'y a pas de stratégie. Il y a de stratégie au niveau opératique sur ces questions-là. Et je ne la vois pas, excusez-moi, au niveau du ministère, je ne la comprends plus. Donc je me rappelle quel fut l'engouement du DICREAM, puisque en plus nous en avons participé. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Et pourtant, quelque chose montre encore cette vivacité-là, c'est qu'il y a quand même eu 300 réponses, alors qu'il n'y avait pas une communication très importante sur cela. Ça montre bien qu'il y a un fossé et un écart entre la possibilité et les compétences qui existent encore, malgré le fait qu'on a un déficit de formation, et puis par contre les réponses qu'on fait. Et je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, s'il y a un artiste dans cette salle qui est capable de répondre à un appel de candidature européen et qui est capable en plus de garantir la validité de l'obtention des fonds sans être obligé de les renforcer, qu'il lève le doigt, je serais curieux de l'entendre et voire même de l'embaucher pour qu'il nous dise comment il l'a fait et qu'on puisse faire un appel à candidature.
Sur de manière générale, d'abord juste une image qui me revient en t'écoutant l'autre jour lors de la visite d'un incubateur parisien, donc un lieu de start-up. J'ai vu les t-shirts d'une jeune entreprise, il y avait Fail Better, donc échoue mieux, donc Beckett, et donc quelque chose de terrible hein, là-dedans. Et ça répond un petit peu à la question aussi, c'est-à-dire que je pense qu'il va falloir qu'on arrive à assumer qu'on fait de la recherche pour faire de la recherche et de l'art pour faire de l'art et pas pour faire autre chose et que donc on arrête avec fail better quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le monde de l'innovation, maintenant il y a un dogme de l'échec. Enfin, et on peut le comprendre, c'est-à-dire qu'effectivement la recherche ça va avec un échec possible, sinon il n'y a pas de recherche. Mais là, on sent que c'est en train de basculer sur autre chose et que dans la Startup Nation, ça, c'est autre chose. Donc, pour répondre un peu directement à ce que tu dis, je pense qu'effectivement, dans ce domaine du numérique, des formats hybrides, de la recherche, nous manquons d'une stratégie clairement formulée, assumée. Je ne sais pas très bien pourquoi. Ce que je sens de mon poste, d'observation là où je me trouve en ce moment, c'est que c'est une question qui se pose souvent ailleurs qu'au ministère de la Culture, de fait. Que ce sont des questions qui sont parfois perçues comme techniques, là où elles sont profondément politiques et relevant de politique culturelle. Et que la culture numérique, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement concret pour nous tous, pas seulement pour les plus jeunes aujourd'hui. Et que donc il y a évidemment quelque chose à penser sur ce sujet. Et de fait, moi je suis d'accord avec ce constat qui est que je pense que pour ceux qui se sont lancés dans ces pratiques il y a déjà quelques temps, on en parlait tout à l'heure, mais on s'attendait à un autre paysage pour, disons, si on nous avait dit en 2019 où est-ce que vous en serez, on aurait vu autre chose. Et finalement, par exemple, pour parler sous un angle très précis qui est celui du DICREAM, puisque c'est celui que tu cites, l'idée de ce dispositif, c'était de dire finalement, comme les aides dans les grandes aides théâtrales, art visuel, n'aident, en fait, excluent les projets numériques, il faut cette aide transitoire et la société va évoluer et puis tout naturellement ça va se verser partout, pas du tout ce qui se passe. Et effectivement on voit énormément non parce qu'il n'y en a pas tant que ça, mais les quelques auteurs par exemple qui travaillent sur les textes numériques, il y a toute une sorte de bagarre absurde sur ce n'est pas du théâtre, c'est du théâtre, etc. Et je pense que quand on commence à avoir ce débat là c'est qu'on est mal engagé quoi, parce que c'est pas le sujet quoi. Et donc la SACD qui dit ce n'est pas du théâtre, bon alors il y a du texte mais il n'est pas linéaire, il n'est pas imprimé, tout ça. Voilà, donc je suis même très d'accord sur le constat.
Moi, je voulais parler d'une. Il y a beaucoup de projets de makers autour des hackerspace, etc. Et j'ai l'impression que c'est exactement le contrepoint des projets européens, c'est-à-dire c'est il y a peut-être d'assez gros moyens pour ces manifestations-là, mais où on sent que c'est un espèce d'appel à bénévolat. Enfin, moi, j'en regarde pas mal des appels à projets de maker faire, de hacker. Enfin, voilà. Et comment on arrive à faire que, acteurs de la culture, on arrive à rentrer dans ces démarches qui sont hyper intéressantes, en fait, des travaux collaboratifs dans les hackerspaces, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant. et à faire qu'on puisse, nous, en tant que professionnels de la culture, rentrer là-dedans, apporter aussi notre expertise de gens qui ont des multiples casquettes, et à rentrer avec, avec le public de ces endroits-là et à partager des choses.
Je vole le micro juste quelques minutes, mais pour dire que aussi quelque chose que je découvre au ministère de la Culture, qui est que les bonnes idées ne suffisent jamais. En fait, en arrivant, pour tout vous dire, je m'imaginais que j'allais rencontrer des résistances explicites importantes à ces sujets. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et presque toujours, en fait, on me dit « super idée, vas-y ». La difficulté, c'est que, évidemment, à budget, disons, stagnant dans le meilleur des cas, mais de fait, en fait, plutôt en baisse, en fait, si vous investissez sur ces nouveaux sujets, il va falloir le prendre ailleurs. Bon. Et c'est là que les problèmes commencent. Et juste pour répondre à une toute petite partie de ce que vous dites, il y a quelque chose que je vois très concrètement tous les jours là où je travaille, c'est que les bonnes idées ne suffisent pas, dans le sens où tant qu'on ne peut pas taper sur des casseroles à 500 devant la porte du ministère en bas, il manque quelque chose, il manque un rapport de force au fond. Et dans le domaine de ces pratiques-là, je constate que nous sommes très très séparés, isolés, atomisés, en désaccord, etc. En tout cas, il n'y a pas du tout de parole unie. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut créer forcément un syndicat ou un organe représentatif au sens traditionnel du terme. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, de ma position, je vois bien que y a un moment où c'est quand même celui. Il y a un côté aussi, c'est celui qui crie le plus fort. Quoi. En tout cas, il faut pouvoir crier un petit peu. Et donc. Et par contre, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les couloirs toute la journée et qui discutent. En gros, c'est très important au niveau du ministère de la Culture, par exemple, de venir parler aux gens qui travaillent dans ce ministère. Tout simplement. C'est quelque chose qui nous manque. C'est-à-dire que de l'extérieur, on a l'impression que c'est imprenable, impénétrable, on ne comprend pas comment ça marche, etc. Mais de l'intérieur, on a vraiment la même impression un peu d'isolation et de perdre un peu le contact avec le terrain. C'est une problématique quotidienne. Et donc moi, j'aurais tendance déjà, comme petite réponse, de dire, allez-y... venez proposer des idées, proposer des choses. Il y a d'ailleurs un réseau, je le dis pour information, pour ceux qui ne le sauraient pas, un réseau très informel, non constitué en personne morale, des acteurs des lieux numériques en France, que certains connaissent, et qui se parlent à intervalles réguliers dans les festivals d'art numérique tous les 3, 4, 5 mois, typiquement, et qui, alors c'est pas un organe de lobbying surpuissant, mais c'est un début important. C'est déjà un endroit où il y a du partage, de la mutualisation, etc. Voilà, ceci étant dit, tout ne converge pas du tout vers le ministère de la Culture dans ses pratiques. Mais c'était juste pour vous dire que sur ce petit volet-là, en tout cas, les portes sont en fait parfois plus ouvertes qu'on ne le pense.
Et c'est vrai que nous, à Relecture Europe, on est aussi très vigilants sur cette dimension d'échange, de conversation. Et voilà, on échange avec des acteurs, des porteurs de projets. Et aussi, il y a vraiment cette très forte dimension d'échange collaboratif. Et on note vraiment un de nos enjeux, c'est vraiment travailler sur l'accessibilité en fait, de ces programmes européens pour pas qu'ils bénéficient toujours aux plus grosses structures ou aux structures qui sont déjà bénéficiaires depuis de nombreuses années. Mais c'est vraiment en travaillant cet échange, en travaillant aussi de manière vraiment collective entre pairs, qu'à l'occasion, par exemple, d'ateliers, on peut vraiment échanger avec vous par rapport à votre pratique, comment votre pratique évolue, et aussi faire en sorte de susciter la curiosité d'autres acteurs, d'autres secteurs, et pour organiser de manière vraiment collective ces moments d'échange, d'hybridation, pour susciter la curiosité, l'intérêt, pour faire émerger de nouvelles collaborations. Et ça, c'est vraiment un temps qui est un temps long, et donc c'est important de pouvoir échanger, se réunir. Et c'est vrai que nous, on est au relais sur différentes temporalités, ce qui a effectivement tous ces appels à projets avec des deadlines de candidature, mais au-delà, il y a vraiment cette démarche beaucoup plus large d'exploration où on organise des temps à Paris, dans les régions, en Europe, pour aussi aller à la rencontre d'autres acteurs et inciter les acteurs à découvrir d'autres disciplines et d'autres secteurs. Donc on serait très heureux de vous accueillir à l'occasion d'un de ces prochains ateliers de moments de conversation pour pouvoir aussi vous mettre en lien, en connexion avec les autres secteurs créatifs. Donc je pense qu'il y a On a besoin de moments d'échange à ce niveau-là pour créer les meilleures conditions de ces hybridations, en fait.
Donc, pour conclure, en gros, on peut expérimenter. Vous êtes là pour nous aider, artistes, numériques, metteurs en scène, acteurs, etc. Mais il faut qu'on fasse faire du lobbying auprès de vous, qu'on vous rencontre en dehors des temps d'appel à projet, pour que vous compreniez un peu qu'est-ce qu'on peut faire, de quelle manière on peut le faire, quels sont nos besoins et de quelle manière on peut inventer demain de nouvelles formes et de nouvelles passations.
Je pense que c'est vraiment l'enjeu de créer tous ces moments d'échange qui, au fur et à mesure de ces rencontres, créent les petites étincelles qui vont permettre d'initier des coopérations sur de nouveaux projets. Et il faut créer les conditions des étincelles de démarrage des nouvelles collaborations, en fait.
Bon, on s'arrête sur les étincelles. Merci beaucoup. Je passe la parole à Céline, qui va vous parler du reste du programme de la journée.
Merci encore à nos intervenants d'avoir répondu donc à cette invitation pour cette table ronde. Merci à Laurent, à nouveau, pour ce jeu de la modération. Merci encore. Et merci à vous. Donc là, je vous propose donc un petit café, un petit thé ou un jus de fruits avant de démarrer les explorations donc dans les deux autres salles du cellier. Et puis ici, vous êtes invités à revenir à nouveau pour 16 heures, donc pour voir et découvrir l'expérimentation de Ramon Diago. Merci encore à vous. Alors juste pour vous redire aussi, pardon, c'est un faux départ, on vous retrouve tous à 18h au Palais du Thau pour l'inauguration donc, du festival Orbis Pictus. Et puis on démarrera les parcours à 18h45 jusqu'à 21h. À 21h, donc on vous fera découvrir le spectacle inaugural Ersatz de Julien Mélanie, qui était à la table ronde de ce matin. Voilà, qu'on aura plaisir à découvrir tous ensemble. Et donc le festival continue également toute la journée de demain, de 9h30 à minuit, il me semble. Les parcours finissent avant. 21h, ils terminent. Et puis dimanche, ce sera de 9h30 à 18h. Voilà, bon festival et bonne fin d'après-midi autour des expérimentations. Merci à vous.